l'invité du dimanche.
Pour la célébration de l'Épiphanie, dans son homélie, Benoît XVI rappelait les trois dimensions constitutives de l'humanisme moderne, la dimension politique, scientifique et religieuse. Avec nous, un financier, un membre de l'Académie des sciences morales et politiques et le président de l'Association internationale Cardinal Henri de Lubac, Jacques Delarosière. Comment est-ce que vous associez ces trois dimensions ? Comment avez-vous rencontré d'abord Henri de Lubac ?
Bien, pour vous dire la vérité, ça a été un peu le fruit du hasard. Quand le père de Lubac est mort au début des années 90, il était membre de l'Académie des sciences morales et politiques et il a donc laissé un fauteuil vacant. Et on m'a approché dans le bureau de l'Académie pour me demander si j'étais intéressé à me présenter à cette Académie des sciences morales et politiques. Alors j'ai dit oui, mais je suis complètement indigne de succéder au père de Lubac. Et ils m'ont dit non, mais c'est pas du tout ça qui se passe. Vous n'allez pas devenir un théologien. Il n'y a pas de droit de suite à l'Académie des sciences morales et politiques. On pressent des personnes, des personnalités, et votre responsabilité, ça va être de travailler l'œuvre du cardinal de Lubac, que je ne connaissais guère, et de présenter un éloge de votre prédécesseur. Alors j'ai donc accepté ce défi avec beaucoup d'humilité, je dois dire, et je me suis plongé dans l'œuvre du cardinal de Lubac. Évidemment, j'ai été immédiatement impressionné par cette œuvre. Ce n'était pas du tout quelque chose que je faisais au début, c'était quelque chose que je faisais pour faire un éloge. Et c'était un peu un devoir. Mais très vite, c'est devenu un grand plaisir, parce que le cardinal de Lubac écrit très bien, et c'est devenu une source d'enrichissement, à la fois intellectuel, par la culture et l'intelligence du père de Lubac, et aussi une source de méditation spirituelle. Je crois qu'on peut dire que le cardinal de Lubac représente bien les différents points que Benoît XVI a indiqués dans son homélie. D'abord, c'est un homme qui a une culture universelle, ce qui est rare de nos jours.
C'est ce qui vous touche particulièrement ?
C'est une des choses qui me touche, ce n'est pas la seule, mais ça m'a beaucoup frappé, le fait que ce soit un homme qui soit à la fois un philosophe, un historien, quelqu'un qui a étudié la littérature russe, la pensée socialiste, et puis en même temps, qui a écrit des ouvrages théologiques très importants, nourris de saint Thomas d'Aquin. Il a écrit sur la patristique, dont il était un fervent admirateur. Donc c'était un homme d'une culture, je dirais, universelle. La deuxième chose, c'est que toute la pensée du cardinal de Lubac est dirigée vers la connaissance de Dieu, l'intelligence de la Bible, de l'Évangile, des Écritures saintes. Et elle est entièrement axée sur l'Église et son mystère. C'est une œuvre.
Et en quoi cela vous touche ?
Ça me touche parce que, étant chrétien, étant catholique de formation, de milieu familial, de conviction aussi, j'ai trouvé dans le père de Lubac une pensée qui ne pouvait que raffermir la foi dont j'avais la chance d'être doté.
Est-ce que vous avez trouvé des réponses à vos questions ?
Oui, on trouve beaucoup de réponses quand on travaille le père de Lubac, parce qu'il a réfléchi fondamentalement à ce qu'on appelle le mystère de l'Église. L'Église n'est pas une chose donnée qu'on comprend en lisant un certain nombre d'ouvrages, de règles. C'est une quête spirituelle permanente. Et c'est là, à mon avis, que le père de Lubac est un des grands maîtres de la pensée.
Est-ce qu'il répond à des questions que vous ne vous étiez pas posé ?
Bien sûr, il répond fondamentalement à la question de la raison d'être de notre vie sur Terre. Tous les philosophes essayent de répondre à cette question, avec plus ou moins de bonheur. Et lui le fait avec une élévation de pensée et en même temps une modestie considérable. Il s'est toujours raccordé à la pensée des pères de l'Église, c'est-à-dire que c'est un homme dont la tradition est ancrée dans sa pensée, mais en même temps, c'est un homme très moderne. Il a pris des positions, alors ça c'est le côté, si vous voulez, politique, il a pris pendant la guerre des positions très courageuses. Il a été un des collaborateurs de Témoignages chrétiens du père Chaillet. Il écrivait des articles dans la clandestinité, il a failli être arrêté, il s'est caché. Il a écrit un livre contre l'antisémitisme, il a écrit un livre contre le nazisme. C'est donc un homme très engagé. Et il a participé, bien entendu, aux travaux du Concile.
Vous avez pris la succession à l'Académie des sciences morales et politiques du cardinal Henri de Lubac. Et suite, j'imagine, à cette entrée à l'Académie, vous êtes devenu président de cette association internationale ?
Quand vous entrez à l'Académie des sciences morales et politiques, d'ailleurs à l'Académie en général, ou à l'Institut, vous devez faire l'éloge de votre prédécesseur. Lorsque j'ai prononcé cet éloge, ça devait être en 93, il y avait dans la salle, que c'était une audience publique, un nombre de disciples du père de Lubac, en particulier des jésuites, comme le père Chantraine, comme le père Sales, qui avaient connu, eux, le cardinal de Lubac, non seulement l'avaient connu, mais avaient travaillé avec lui, avaient été les héritiers de sa pensée, de ses archives, et le connaissaient intimement. Et quand ils ont entendu mon éloge, ils se sont rapprochés de moi et ils m'ont dit que ça serait une bonne idée de constituer une association qui aurait un caractère international, un peu universel, qui porterait le nom de Henri de Lubac et dont vous seriez le président. Alors j'ai dit, mais grand Dieu, pourquoi est-ce que je serais le président? Je ne suis pas un théologien. Non, ils m'ont dit, mais on n'a pas besoin d'un théologien. Il y a des théologiens qui connaissent très bien l'œuvre du père de Lubac. Ce dont on a besoin, c'est quelqu'un qui a un certain goût pour ce qu'il a écrit, c'est votre cas, qui ne soit pas un spécialiste, mais qui puisse animer une association, aider à lever des fonds et à faire connaître, à propager l'œuvre du père de Lubac, qui risque sans ça de s'étioler. Alors voilà.
Et ainsi, vous êtes devenu de façon très docile le président de cette association.
Oui, tout à fait docile, alors j'ai accepté cela.
Et il y a eu quand même, à la suite du fait que vous êtes devenu président, des rencontres qui ont permis quoi ?
Oui, au début, on a commencé par quelques colloques. Et lors d'un de ces colloques, Mgr Lustiger, qui était archevêque de Paris, m'a dit, mais Monsieur de la Rosière, c'est très beau de faire des colloques, mais ce n'est pas ça qui va perpétuer la pensée du cardinal de Lubac. La première chose à faire, c'est de publier, de rééditer les œuvres complètes du cardinal de Lubac. Il a écrit à peu près 45 ouvrages, ils sont difficiles à trouver, ils sont répartis chez plusieurs éditeurs, et il nous a dit, si vous voulez vraiment qu'on lise le cardinal de Lubac, il faut rendre plus accessibles les livres du cardinal. Alors c'est là que nous sommes entrés dans une nouvelle phase des travaux de l'association, où je me suis rapproché d'un éditeur qui est le CERF, qui a été le seul qui a accepté cette tâche herculéenne de faire paraître une cinquantaine de volumes, qui ne sont pas des volumes à caractère commercial, je dirais très rentables,
facile,
comme vous pouvez l'imaginer.
Oui.
Mais le père Cède, qui est aux éditions du CERF, connaissait lui aussi le père de Lubac, avait été très impressionné par sa pensée, et il a accepté ce défi. Et nous en sommes maintenant bientôt à une quinzaine d'ouvrages republiés. Ce n'est pas que de la réédition, c'est de la réédition avec deux choses très importantes. La première, c'est la traduction des longues citations en latin et en grec. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut faire un certain nombre de notes, des index. Et tout ça, c'est fait par un groupe de théologiens sous l'égide du père Georges Chantraine. On arrive à sortir, si vous voulez, au CERF des ouvrages qui sont très accessibles, plus faciles à
plus
lire.
Facile, voilà.
Oui, parce qu'il y a des notes qui vous guident, etc. Oui.
Mais et c'est voilà. À ce titre, Jacques de la Rosière, que vous êtes à Rome ces derniers jours pour le prix Henri de Lubac, décerné par l'ambassade de France auprès du Saint-Siège. Et il y a 3 ans, c'était la première fois que l'on décernait ce prix. Et vous avez rencontré, je crois, un grand admirateur du cardinal Henri de Lubac.
Tout à fait.
Est-ce que vous pourriez nous raconter
cette
rencontre ?
Oui, alors ce grand admirateur, c'était le cardinal Ratzinger, qui peu de temps après devenait le pape Benoît XVI, et il a donc présidé le jury que préside maintenant le cardinal Poupart. Et à l'occasion de la remise du prix, il a en effet fait une intervention extrêmement émouvante d'ailleurs sur ce que le père de Lubac lui avait apporté. Et il a indiqué que, sortant de la guerre, il était tout jeune étudiant en théologie, des champs de ruines partout en Allemagne, et dès ce moment-là, il a rencontré l'œuvre de Lubac. Et il nous a dit d'une manière extrêmement claire et en même temps très personnelle, très émue, à quel point le père de Lubac avait été un guide pour lui, ce jeune homme qui commençait sa théologie à cette époque-là. Guide qu'il a toujours été d'ailleurs au cours de sa vie et de son approfondissement de la théologie. Donc c'était très personnel, très émouvant, et je me souviens de cette intervention.
Est-ce qu'on peut dire que, à travers le fait que vous soyez président de l'association internationale Cardinal Henri de Lubac, Dieu lui-même s'est mis en marche vers vous, Jacques de la Rosière?
Oui, on peut le dire. Je ne crois pas, si vous voulez, en une prédestination où les choses seraient programmées à l'avance. Je crois que la providence fait qu'on a la chance dans la vie de faire des rencontres. J'ai fait la rencontre du père de Lubac dans des circonstances un peu occasionnelles. Alors oui, c'est une manière pour moi de me rapprocher un peu de l'idéal évangélique, mais j'en suis bien loin.
Est-ce que c'est une partie de ce que vous faites qui vous rend heureux?
Ah, tout à fait. Oui. C'est avec un immense plaisir que je travaille à cette mission.